Ces deux dernières semaines, nous nous sommes interrogés sur ce chapitre particulier d'Exode, chapitre 3, avec le charbon, avec le buisson ardent, pas le charbon ardent, le buisson ardent. Nous avons découvert ou réaffirmé que le Dieu du buisson ardent est un Dieu sacré. Que le Dieu du buisson ardent est un Dieu compatissant. Il leur a dit au verset 7 et 8, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'ils souffrent. » Nous avons redécouvert que le Dieu du buisson ardent était un Dieu proche. C'est lui qui va délivrer et conduire. Nous avons découvert que le Dieu du buisson argent, du buisson ardent, pardon, implique les gens à participer à son dessein. Il appelle du milieu du buisson ardent Moïse, Moïse. Nous avons découvert que le Dieu du buisson ardent était un Dieu éternel, celui qui s'appelle Je suis. Qu'il est le Dieu qui existe. Non seulement il existe, mais il existe indépendamment. Il est le Dieu immuable qui ne change pas. Et enfin, nous avons découvert ou redécouvert qu'il était le Dieu qui existait éternellement. Alors, dans cette même veine, je voudrais lire avec nous, et vous pouvez tourner les pages de l'Écriture dans Jean 8. Jean 8. Pour rappel, dans Exode 3, quand Moïse demande « Qui es-tu ?» Il dit « Je suis celui qui suis. » Et il lui dit « Tu diras aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. » Et regardez bien maintenant Jean 8, 58. Jésus leur dit, Jean 8, le quatrième évangile. Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. Moi, je suis. Ego, emi. Ego, c'est moi. Emi, je suis. Ah, il y a Pierre qui me fait un sourire, je sais pas si je parle justement, mais l'ego, c'est ma personne. Dans notre sens, l'ego, c'est pas la bonne personne. C'est celui qui est égocentrique et refermé. Mais dans la version originale, dans la bouche de Jésus, c'est le seul évangile qui retrace ces deux mots. Je suis. Il est intéressant de voir qu'entre Exode 3 et Jean 8, des siècles se sont passés. La promesse a perduré. L'espoir laissé dans Exode 3 rejaillit à la lecture du Nouveau Testament. Quand notre Seigneur applique l'enseignement de « Je suis », il cite Exode 3, je crois qu'il le fait en relation avec ce buisson ardent. Dans le livre du Deutéronome, il dit « Voici les paroles de bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les Israélites avant sa mort. De Joseph, il dira « L'Éternel bénit son pays par les plus précieux fruits dont la terre est remplie, que la faveur du Dieu qui s'est manifestée dans le buisson ardent vienne pour couronner la tête de Joseph. » Le texte des bénédictions qui avait été prononcé par Moïse était juste avant sa mort. Les bénédictions prononcées sur Joseph étaient données alors que Joseph était déjà mort. Les promesses de Dieu, les promesses que Dieu nous fait nous fait et les promesses que Dieu a fait lorsqu'il a dit « Je suis » sont des promesses que nous pouvons acquérir même mort, à l'aube de notre disparition, de notre enlèvement. Nous avons cette assurance que Dieu tient ses promesses. Ceux qui meurent sont assurés de la réalisation des promesses de Dieu. Le fait que Dieu dit « Je suis » nous assure que nous vivrons avec lui pour toujours, si nous sommes ses enfants. Je répète, Jésus, le fait que Dieu dise « Je suis » nous assure que nous vivrons pour toujours avec lui si nous sommes ses enfants. Et Jésus applique la même chose dans deux occasions. Dans Marc 12, 18, ce sont les Sadducéens, les religieux de l'époque, un groupe de religieux de l'époque, qui eux ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et ils l'interrogent sur un point particulier. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, à quel terme Dieu leur a parlé ? Il leur a dit : Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Où êtes-vous complètement dans l'erreur ? Ils l'ont interrogé sur de qui l'épouse au ciel sera d'une femme qui avait eu 7 frères comme mari. Ils ont pris un point un peu tordu et ils ont dit : Seigneur, alors de qui sera-t-elle l'épouse au ciel ? Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à l'au-delà. Et c'était un groupe de religieux, dit-on. Jésus leur répond, quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse ? Il faisait référence à l'Ancien Testament. Lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pas le Dieu des morts. Dans la deuxième occasion, quand Jésus utilise ce fameux « je suis », c'est dans le sens où Jésus va utiliser 7 fois cette phrase « je suis ». Et il va les amener au verset 58, Jean 8, 58, « avant qu'Abraham ait existé, je suis ». La référence, notre curseur. Quand on fait référence à notre vie passée, aux événements passés, où est-ce qu'on s'arrête ? À notre naissance ? Notre frère, ce matin, il a dit « avant même que je naisse ». Dieu savait. La Bible dit « avant même que je sois formé ». Dieu sait. Et ces Juifs qui interrogent Jésus, leur point de référence est Abraham. Ils disent à Jésus « tu es inférieur, Jésus ». Tu es venu après, bien longtemps après. Tu es tout petit dans la ligne. Et quand Jésus leur dit « avant qu'Abraham fût », c'est ce que vous avez dans les 3/4 de vos versions, « je suis ». Avant qu'Abraham vienne à existence, j'étais là. Jésus, dans son « je suis », ne remonte pas à l'Ancien Testament, il remonte à la création. Vous imaginez que nous avons un Dieu, nous avons en Jésus-Christ la représentation de quelque chose qui existe depuis l'éternité, qui est créateur. Et ça a dû quelque part déstabiliser, n'est-ce pas, les Juifs. Comment ça, tu es supérieur à Abraham ? Avant qu'Abraham ? Mais alors, quel âge as-tu ? quand on utilise cette version « je suis », dans beaucoup de nos traductions, on a traduit « c'est moi ». C'est moi. Et vous avez certainement ça dans vos traductions ce matin. C'est moi qui. Alors c'est la représentation du terme. Mais le terme, si on prend « je suis », c'est bien plus impressionnant que « c'est moi ». Et je vous rappelle, Moïse, il avait posé deux questions. On va essayer de répondre aux mêmes questions ce matin. Il avait posé deux questions à Jésus, à Dieu. Il avait dit « qui es-tu ?» Et il avait dit « qui suis-je ?» Qui suis-je en fait ? Dans le jardin de l'arrestation à Gethsémané, alors qu'on cherche à l'arrêter, que un des siens vient avec la troupe avant que la foule arrive. Jésus dit : je suis celui que vous cherchez. C'est moi. C'est moi. C'est au chapitre 18, versets 5 et 8. Et qu'est-ce qui se passe ? Les soldats reculent. C'est lui. Jésus est utilisé uniquement par Jean, parce que Jean, il a voulu, sur les quatre évangiles, c'est l'évangile particulier qui prêche la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Les autres évangiles, bien sûr, dépeignent sa divinité, mais dans un autre contexte. Il est le roi des Juifs, il est le serviteur. Mais Jean, il ne cesse de rappeler que Jésus est Dieu. Et quand Jésus, Dieu, dit « je suis », ceux qui l'écoutent font référence à Exode chapitre 3. « Ah, tu es donc Dieu ?» Tu es donc Dieu toi-même. Dans Jean 6, 35, regardons quelques instants. Jean 6, 35, Jésus dit : je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Je vais revenir. Jean 8, verset 12. Il y en a sept comme ça. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Waouh ! Éclairer notre existence, éclairer notre avenir. Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore : amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 11, 25. Face à Marie, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et enfin, dernier, Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On les a déjà lus. On en a déjà parlé. On a déjà abordé ces choses-là. Mais quand Jésus dit « je suis », voilà ce qu'il est. Quand notre Dieu nous dit « je suis », quand il dit à Moïse « je suis », est-ce que Moïse pense qu'il est tout ça ? Qu'il est de toute éternité ? qu'il est celui qui ne change jamais. Quand Jésus dit dans Jean 6 au verset 35, verset 41, 48, 51, je suis le pain de vie. Le point de départ de la vie spirituelle, c'est se nourrir de ce qui vient de Dieu. Quand quelqu'un naît de nouveau, empêchez, demandez à Marie, elle n'est pas là ce matin, mais on va demander au papa de ne pas nourrir Abigail pendant plusieurs jours. Le papa m'a dit hier qu'elle ne dormait pas beaucoup et qu'eux non plus d'ailleurs. Mais je pense qu'en plus, s'il la prive de nourriture, je pense que même les voisins vont être privés de sommeil. Parce que le bébé va crier. Parce que sa seule façon de réclamer à manger, c'est de crier, n'est-ce pas ? Le point de départ de notre vie, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. De toute parole. Est-ce là notre pain de vie ? C'est bien super. Vous savez, cette « Donne-nous aujourd'hui » dans Matthieu 6, notre pain quotidien. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Cette nourriture qui me fait vivre, cette nourriture qui me permet de mieux te connaître, accepter pour soi-même la valeur de la mort de Jésus pour expier mes fautes et comprendre son enseignement. Voilà la première démarche. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Il n'ira pas chercher ailleurs. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, je suis le pain de vie. Nourrissez-vous de ma parole, de mon enseignement. On est un peu anorexique, hein, nous les chrétiens. On fait beaucoup de régime alimentaire de la parole de Dieu. On prend les petits sandwichs, on va au McDonald's, on mange vite. Est-ce que Dieu est notre pain de vie ? Est-ce que Jésus est notre pain de vie ? Quand je me lève, quand je me couche, dit le psalmiste, je me tourne vers toi. Au chapitre 8 et au verset 12, c'est le chapitre 8, il dit « Je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. » Une fois qu'on a pris une route, comment être sûr de bien diriger notre vie ? En suivant Jésus. En le priant sans cesse. Comme si on lui tenait la main. Alors on a la lumière de la vie. Nous ne sommes pas des illuminés, des gens allumés, mais des hommes et des femmes qui peuvent vivre dans la lumière du Christ, qui savent sur quelle route ils sont et où ils vont. Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes ceux qui montrent la route à vos concitoyens. Vous êtes le phare. Est-ce que j'ai pris cette lumière de la vie ? Est-ce que j'ai rencontré le « Je suis » ? La troisième chose que Jésus, cette métaphore que Jésus utilise, il dit « Je suis la porte ». Je suis la porte. Jésus est la porte pour rentrer dans la famille de Dieu. Jésus est la porte des brebis, celui par qui on doit passer obligatoirement. Il n'y a pas des portes annexes. L'entrée des artistes, vous savez, derrière, en catimini, caché. Non. Ce que Jésus a fait, il a rompu le rideau, rompu le voile. Déchirer le voile pour que nous puissions avoir accès directement à son Père. C'est lui le seul chemin. il est la porte. Mais bien plus que la porte pour ses brebis, il en est en plus, le bon berger. Verset 10, verset 11, verset 14. Non pas un chef, non pas un professeur, mais un berger. Vous savez, en utilisant cette image, Jésus choque les foules. Parce que les bergers étaient très mal considérés. Parce que c'était... Les bergers passaient énormément de temps avec leurs brebis. Et donc, ne pratiquaient pas la vie religieuse comme tout le monde. N'étaient pas à la ville. N'étaient pas vus. Et donc, étaient inconsidérés. En plus, on les considérait comme des gens incultes. Donc, quand Jésus dit « Je suis le bon berger », je suis la porte, mais en plus j'en prends soin, il amène une réaction, n'est-ce pas? Tu n'es pas comme les autres? Tu veux faire de nous des gens pas comme les autres? Il a laissé sa vie à lui. Philippiens 2 nous dit qu'il a quitté, il n'a pas hésité à quitter son ciel pour venir sur la terre, pour nous sauver. Nous lui appartenons. Il nous a rachetés, nous dit la première épître de Pierre. Il nous a rachetés, et à grand prix. Il est le pain de vie. Il est la lumière qui montre le chemin. Il est la porte d'entrée dans sa famille. Il est le bon berger. Et dans Jean 11, il va plus loin, il dit « Je suis en plus la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Jusqu'où irons-nous avec le Seigneur? Jusqu'au-delà de la mort? Ce qui est vivant, on connaît, n'est-ce pas? Ou à peu près. On maîtrise. Mais après, beaucoup disent ouais, mais personne n'est jamais venu nous raconter ce qui se passait après. Personne. Par sa résurrection, il nous a ouvert un domaine nouveau. Et nous appelons ce domaine nouveau la vie éternelle. La vie éternelle. Ce que nous commençons aujourd'hui, ce que nous commençons le jour de notre naissance, dure pour l'éternité. C'est pas 10 ans, il n'y a pas de garantie décennale. Vous savez, la garantie décennale, c'est 10 ans. Et souvent, je le partageais dans un message récent, il y a des petites lignes en bas où c'est pas compris dans la garantie. Mais Jésus, lui, il nous promet quoi? Non seulement il sera avec nous, mais en plus, là, il est en train de nous préparer une place. Quand il annonçait à ses disciples qu'il allait partir et qu'ils étaient tous tristes, qu'ils étaient... Voilà, il disait, mais pourquoi tu pars? Jésus leur a dit, hein, je transcris un peu, je vais vous préparer une place. Afin que là où je serai, vous viendrez avec moi. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit au début des évangiles pour ceux qui voulaient le suivre? Mais je n'ai pas une seule place pour poser ma tête. Je n'ai pas une seule place pour poser ma tête. Et là, il leur dit, pour votre éternité, je suis en train de vous préparer une place magnifique. J'y serai, vous y serez. Waouh ! C'est ça la résurrection et la vie. Jean 14. Un texte qu'on cite très très souvent, n'est-ce pas ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin vers la maison du Père, vers Dieu lui-même. Nous sommes en chemin, mes amis. Nous sommes en route sur le sentier. C'est pour ça qu'on a besoin de la lumière pour voir clair. C'est pour ça qu'on a besoin d'un guide pour nous guider. La vérité sur nous, à des fois elle est difficile. La vérité sur nous. Tu vois, je te dis la vérité quand quelqu'un nous dit ça, en principe c'est pas bon. On ne nous le dit pas forcément avec amour. Hein. De temps en temps, il faut que tu entendes la vérité, Jean-Claude. Mais Jésus ne nous l'a pas dit comme ça. S'il nous a dit « Oui, tu es pécheur », Oui, tu es perdu. Il a dit, mais j'ai payé le prix. J'ai payé le prix pour que tu viennes avec moi. La vérité sur son amour. La vérité sur sa justice. Un Dieu juste. Nous sommes injustes, nous les hommes. Mais Dieu est juste. La vie. Il y a un chanteur hein, populaire qui dit « Qu'est-ce qu'elle a ma vie ?» Et il dit aussi une autre chanson qui va sur le même ton. Mais la vie, celle qui consiste à connaître Dieu. Dieu le Père et le Seigneur Jésus. Est-ce que nous connaissons le Dieu je suis ? Est-ce que nous sommes sur le chemin ? Connaissant la vérité sur nous, définissant la vraie vie. Où est-ce que nous voulons de cette vie que le monde nous offre ? Cette vie faite de paillettes, d'apparat, mais aussi de tromperie. Cette vie qui durera un temps, mais combien de temps ? Et qui disparaîtra. Il dira, je suis le vrai cep dans Jean 15. Comment honorer Dieu ? Par Jésus seul, en restant uni à lui. Ses dernières paroles à Jésus, alors qu'il quittait, il leur a dit, je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous, restez accrochés à moi. Notre seule source de salut, mes amis, c'est d'être attaché à sa parole. C'est d'être attaché à lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que sans sa parole, nous nous égarons. Sans son chemin, nous sortons de la route. Voilà ce qu'exprime Jésus quand il dit « Je suis. Je suis. » Mais c'est marrant parce que notre « Je suis », c'est un peu notre porte-bonheur. Celui qu'on sort quand finalement il y a des soucis, des problèmes. Alors on prie « Oh Seigneur, où es-tu ? » Mais il dit « J'ai toujours été là. Hein. » Ah ben pourtant, j'ai pas l'impression que tu m'écoutes, et pourtant je te parle tous les jours. Mais toi, t'entends rien du tout. Nous sommes dans l'évangile de Jean, dans le contexte de l'espoir. De l'espoir pour quelqu'un qui va mourir. C'est difficile d'entendre qu'un jour nous aurons à mourir. Mais nous sommes tous frappés de la même maladie. Tous. À moins que Jésus revienne, nous sommes tous frappés de la même maladie. Cette maladie s'appelle la mort. Un jour, elle aura disparu. Mais pour l'instant, elle existe toujours et nous en sommes affectés. Mais qu'est-ce qui se passe après la mort ? La Bible dit, hein, justement, Jésus nous prépare quelque chose. Il dit vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Sur quoi les chefs des Juifs reprirent cette fois, nous sommes sûrs, c'est Jean 8, 51, 53, que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu viens nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui lui est mort, ou que les prophètes qui sont tous morts ? Pour qui te prends-tu donc ? Question, qui es-tu ? Pour qui te prends-tu donc ? Qui est Jésus ? Jésus est plus grand qu'Abraham. Par le fait qu'il est « je suis », il n'a pas de commencement, il n'a pas de enfin, je suis l'alpha et l'oméga. Vraiment, je vous l'assure, répondit-il, avant qu'Abraham soit venu, moi, je suis. pour les Juifs et pour nous peut-être. Ceux qui sont morts, ils sont morts et ils ont disparu. C'est fini pour eux. La mort n'a aucune domination sur ceux qui croient en Jésus. La mort n'a aucune domination. La mort peut nous séparer de nos proches, mais elle ne nous sépare pas de Jésus. Abraham vit le jour du Seigneur dans Jean 8, 56 et a été transporté de joie. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23 et au verset 2, les Juifs disaient posséder l'autorité de Moïse, ce qui leur donnait une plus haute autorité que celle du Seigneur Jésus. Mais alors, quand on leur pose l'autorité sur Moïse, la meilleure chose qu'il ait pu dire, Moïse, c'est « Je suis envoyé par celui qui dit « Je suis ». ».« Je suis envoyé par celui qui dit « Je suis » et qui m'a révélé » c'est pas marqué dans le texte qui j'étais. « Je suis envoyé par celui qui est « Je suis ». De qui sommes-nous les envoyés ? De celui qui a été envoyé par « Je suis » ou par celui qui clame être « Je suis » ? Croire en le Dieu qui est « Je suis » est donc la fondation de notre espoir. Quand Jean-Baptiste devait répondre aux questions sur qui il était. Ce qui est intéressant, vous relirez l'évangile de Jean au chapitre 1, c'est intéressant, on lui dit « Qui es-tu, toi ?» Et par trois fois, il va répondre « Je ne suis pas. Je ne suis pas. » Alors finalement, au bout d'un moment, on dit « Ok, on sait qui tu n'es pas, mais alors qui es-tu vraiment ?» Et là, il va dire « Je suis juste venu préparer la venue de celui qui vient après moi et qui est bien plus grand que moi. » Il ne dit pas « je suis », mais il dit « finalement j'ai été envoyé pour préparer celui qui est « je suis ». Quand nous nous présentons, pouvons-nous mettre en valeur ce que nous ne sommes pas ? Nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus quoi d'autre ? Esclaves. Nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ, doulos, serviteurs. Waouh ! Vous voyez que si vous commencez à regarder même la bouteille à moitié vide, je ne suis plus pécheur. C'est bien de se le rappeler. Je ne suis plus condamné, il n'y a plus aucune condamnation, dit Paul, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens, de frères et sœurs, pensent que l'étude des attributs de Dieu est un exercice intellectuel, très peu d'applications pratiques. Quelle est la plus grande chose que nous avons besoin pour les habitants de Vigneux, pour les chrétiens qui se réunissent au 177? Quelle est la plus grande chose que nous avons besoin? Connaître Christ. Connaître Christ. Dans sa prière sacerdotale, Jésus a dit « Je te prie afin qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Et si nous ne connaissons pas notre Rédempteur, si nous ne connaissons pas notre Seigneur, si nous ne connaissons pas le « Je suis », s'il n'est pas notre lumière, s'il n'est pas notre pain de vie, s'il n'est pas notre chemin, s'il n'est pas notre vérité, s'il n'est pas notre vie, alors mes amis, nous perdons nos temps. Et alors, si nous avons le temps de voir venir le jour où nous allons partir, nous allons être dans un effroi terrible parce que nous n'aurons aucune assurance, aucune certitude. Connaître Dieu. L'assurance de connaître le caractère de Dieu. Un Dieu miséricordieux, lent à la colère, patient, juste. La semaine dernière, j'ai parlé d'un Dieu transcendant, un Dieu très loin au-dessus, qui est au-dessus de toute chose. À l'instar d'un Dieu proche, qui appelle Moïse. Moïse, Moïse, c'est de toi que j'ai besoin. Et Dieu a fait la même chose pour nous. Il a peut-être utilisé un buisson ardent pour nous parler. Il a peut-être utilisé un frère, une sœur, un ami, un missionnaire, une cassette. Mais en tout cas, Dieu s'est mis sur notre chemin. Et il nous a appelés par notre prénom. Et il a dit, je veux avoir une relation avec toi là. Mais pas une relation plus pour les 5 prochaines minutes, les prochains mois, les prochaines années. Non, je veux avec toi pour l'éternité. Et même, je veux t'emmener avec moi pour l'éternité. Vous savez, il y a des gens qui sont autour de nous, on dit, je ne passerai pas mes vacances avec eux. Et peut-être le dimanche matin, on se dit, moi, le frère ou la sœur, là, je n'irai pas en vacances avec eux. Ça vous choque, ce que je dis? Moi, je vais vous dire quelque chose, on va passer l'éternité ensemble. Alors, on a peut-être intérêt à apprendre à se connaître. Parce que les vacances, c'est un début, c'est une fin. Si je lis bien le mot éternité, quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Alors si Dieu il nous a fait frères et sœurs, si Dieu il a jugé que j'avais besoin du frère ou de la sœur, là, prenons le temps. Prenons le temps pour développer cette compréhension de qui est Jésus-Christ. La mesure de notre foi, la mesure de notre foi, je l'ai écrit en gras, est proportionnée à notre compréhension de la grandeur de la bonté de Dieu. Je relis, la mesure de notre foi. Quelle est la mesure de notre foi? Elle est proportionnelle à notre compréhension de Dieu. Plus on s'approche de Dieu, plus notre foi augmente. Plus on s'éloigne de Dieu, plus notre foi rétrécit. Les attributs de Dieu, ce qu'il est, c'est 7 points-là. C'est des choses que nous devrions travailler ensemble, relire ensemble, développer ensemble, parce que ce sont des vérités que Jésus a données et qui ont permis que des églises naissent, que des hommes changent de vie, de la passe de la mort à la vie, et qu'aujourd'hui, à Vigne-sur-Seine, il y a une communauté. En revoyant ce « je suis », nous nous sommes concentrés sur la nature éternelle de Jésus, inchangeable. Cette vérité, elle est fréquemment soulignée dans les Écritures. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole ? Est-ce que vous croyez à la vérité de Dieu ? Est-ce que votre Dieu est le Dieu qu'on est en train de décrire ce matin ? Ou est-ce qu'il est ce Dieu que vous, avec qui vous avez du mal à avoir des relations ? Ce Dieu qui n'est pas le chemin, la vérité, qui n'est pas votre chemin, votre vérité ou votre vie ? Il y a plein d'autres vérités dans le monde. Chacun sa vérité, n'est-ce pas ? Est-ce que quand vous allez arriver au ciel, il vous sera dit, je ne te connais pas. Où est-ce que Jésus va pouvoir vous dire, rentre, rentre dans le repos de ton maître. Tout cadeau, c'est l'épître de Jacques au chapitre 1, verset 17 qui dit ça. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut. Du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à la variation. Waouh ! Jacques 1, 17. Ça vaut la peine de le lire. Ouvrez vos Bibles. On va le lire ensemble. Tout cadeau. Jacques 1, 17, à la fin du Nouveau Testament. À la fin. Jacques, chapitre 1, verset 17. Vous avez trouvé? James 1, 17, pour les Anglais, pour les Allemands, je ne sais pas. Tout le monde là ? On le lit ensemble ? Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que c'est notre Dieu qui nous donne ces cadeaux ? Il nous a donné Jésus. Et ce Jésus, il nous a dit : je suis. Je suis. Ego emi. L'apôtre Jean va une nouvelle fois dans un autre écrit à lui nous écrire ce que Jésus est. Je l'ai cité tout à l'heure, c'est Apocalypse 1:8, le tout dernier livre de la Bible, le tout dernier. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, El Shaddai. Jésus s'attribue, je suis El Shaddai, le Tout-Puissant. Wow. Vous avez déjà brossé le portrait de notre Seigneur Jésus ? Quand on en parle, on voit un homme petit, chétif, cloué sur une croix, repentant, mort. C'est pas le portrait qu'on est en train de voir. Quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, c'est un autre, non ? C'en est un qui a la victoire sur la mort, la victoire sur les péchés, la victoire sur les ennemis. C'est ça, je suis. Voilà la proposition que Dieu fait à ses disciples, à ceux qui l'écoutent, à ceux qui pensent être sur le bon chemin, aux Esséniens et à tous les autres groupes. Peut-être Jésus parle à votre cœur ce matin. Ah, mais c'est pas ce Dieu que je connais. Il n'est pas tout puissant. Il n'est pas mon pas de vie. Il n'est pas ma lumière, il n'est pas mon chemin, il n'est pas ma vérité. N'y a-t-il pas une pensée plus réconfortante ? Que Dieu soit éternel et inchangeable. Le Dieu qui est venu délivrer son peuple d'Égypte en la personne de Moïse dans Exode 3. Et maintenant venu en la personne de son Fils Jésus-Christ pour nous délivrer de la damnation éternelle à cause de nos péchés. Tout comme le feu de Dieu brûla, le buisson ne se consuma pas. La colère de Dieu a été déversée sur Jésus, notre péché, pour ne pas nous détruire. Vous avez vu l'image ? Comme le buisson brûlé, il ne s'est pas consommé. La colère de Dieu du péché s'est déversée sur Jésus pour ne pas nous consommer. Parce que Dieu veut que nous vivions. Waouh ! Quelle image ! Vous l'avez déjà vu cette image-là ? Emmenez-la avec vous. Jésus n'a pas voulu que je meure. Dieu n'a pas voulu que je meure, mais que je vive. Et pour ça, il a donné le plus précieux cadeau qu'il avait. Si Jésus est mort pour nos péchés, il n'est pas resté enfermé dans la mort. Il a été élevé. À travers lui, les hommes peuvent être délivrés de la colère de Dieu pour les pécheurs. Est-ce que ce matin, là, au 177, Dieu nous parle. Et Dieu est en train de nous dire, peut-être tu n'es pas sur le bon chemin, peut-être tu fais partie du groupe, mais tu n'es pas sur la bonne voie. On ne se connaît pas de la bonne manière. Mais moi, je veux te donner l'espoir. Pour ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1:12. Jean, il distribue en masse les moyens de s'approcher de Jésus. Pour le non-croyant, pour celui qui doute, il n'y a pas de chose plus horrifiante que ce Dieu de l'Ancien Testament, de penser qu'il déverse sa colère sur les pécheurs. Mais il ne déverse pas sa colère sur les pécheurs. Il a déversé sa colère sur la croix, en laissant son Fils mourir à notre place. Mais il l'a ressuscité pour le garder avec lui. Vous rejetez la provision de Dieu, celle qu'il a faite dans la personne de Christ? Alors, la Bible dépeint de multiples façons les fléaux qui vont arriver. Les doutes, les regrets, les amertumes, les larmes. Mais la chose qui est terrible, c'est que ce feu va durer éternellement. Il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche et dira « Retirez-vous de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ceux qui le suivent. » Qui suivez-vous? Jésus? Il n'y a que deux personnes à suivre. Hein, ou Jésus ou le diable. Dieu ne veut pas que nous suivions le diable. J'aimerais terminer en nous posant deux questions. Deux simples questions que Moïse a posées. Et je nous les repose à nous ce matin, là. Qui suis-je? Qui es-tu? Vous pouvez répondre à ces deux questions? Sur ce que vous êtes ou sur ce que Dieu est? S'il y a une des deux questions à laquelle vous ne pouvez pas répondre, alors mes amis, vous n'êtes pas sur la bonne route. Et ce n'est pas une condamnation. Au contraire, aujourd'hui là, Dieu nous permet d'avoir une réponse. Peut-être la réponse qui nous manque. Qui je suis? Qui est Dieu? Le pain de vie? Le chemin, la vérité, la résurrection, la mort? Le cep? Est-ce que ce Dieu-là, vous en voulez? On va prier. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier ce matin. Parce qu'en nous disant « Je suis », tu nous as remontré ce matin par l'évangile de Jean ce que tu voulais être dans notre vie. Et moi, Père, ce matin, je voudrais te prier pour cette communauté, pour ces hommes et ces femmes qui sont maintenant réunis, qui ont écouté ta parole pendant ce temps et qui peut-être ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas répondre à la question, à une des deux questions, peut-être à la question « Qui suis-je ?» Ils peuvent répondre « Pécheur, loin de Dieu, éloigné de Dieu, sans patrie, sans espoir, auquel toi tu réponds « Mais j'ai donné mon Fils » pour que tu trouves la voie, pour que tu quittes ta voie de pécheur pour être sauvé. Et s'ils ne peuvent pas répondre à la deuxième question, qui es-tu? Et qu'ils ne comprennent pas que tu es le pain de vie, que tu es la résurrection, la mort, le cep, le bon berger, la porte. Alors ce matin, tu parles à leur cœur. Et tu leur ouvres la porte. Voici, tu te tiens à la porte et tu frappes celui qui entend ta voix et qui ouvre la porte. Tu rentres chez lui et tu dînes avec lui. Alors il faut se déterminer quand on nous pose des questions. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui ne peut pas répondre à une des questions ou qui peut-être en écoutant le message a trouvé une réponse, moi, j'aimerais l'inviter à se déterminer devant Dieu ce matin, à se positionner. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait répondre ou qui aimerait profiter de cette occasion pour s'approcher de Dieu, pour avoir plus de réponses, pour avoir sa route éclairée, pour être bénéficié de toutes ces assurances que Dieu nous donne, des bénédictions. Là où vous êtes, vous levez la main. Vous dites: oui, pasteur, j'ai compris. Et j'aimerais ce matin rentrer sur le bon chemin. Oui? Que Dieu vous bénisse. Une personne, oui? Que Dieu vous accompagne, vous garde. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui aimerait ce matin? Oui? Encore quelqu'un? Quelqu'un qui aimerait juste prendre cette main et s'approcher de Jésus et répondre à ces deux questions qui assurent son éternité. Alors s'il n'y a personne, oui? Oui? Que Dieu vous bénisse. Oui? Que Dieu vous bénisse. Voilà, il y a plusieurs mains qui se sont levées. Alors, la Bible dit que quand on prend une décision, on ne la prend pas en catimini. J'ai parlé tout à l'heure, quand on passe par la porte, on ne passe pas par la porte de service, mais on passe par la porte d'entrée. Alors moi, j'aimerais vous inviter ce matin à vous lever, juste là où vous êtes. Vous avez levé la main parce que vous avez été touché dans votre cœur. Moi, j'aimerais vous inviter à vous lever pour que nous puissions vous identifier, pour que nous puissions prier pour vous. Et à la fin du culte, là, des frères et des sœurs vont venir vous voir, tout simplement, pour prier avec vous, pour que vous ayez cette première entrée, comme ce bébé. On a parlé du bébé qui a faim, pour vous aider à bien vous nourrir. Donc, ceux qui ont levé la main, voyez-vous vous lever, s'il vous plaît, pour que nous puissions vous identifier. Voilà. N'ayez pas peur, c'est pas un jugement, c'est pas quelque chose qui est contre vous, c'est au contraire quelque chose qui est pour vous. Voilà. Donc, on va prier. Et puis, à la fin du culte, donc, je vais demander à ceux du conseil, avec qui on a parlé récemment de ce fait, de pouvoir rencontrer ces personnes. Donc, on va ouvrir les yeux, on va regarder pour identifier nos frères et nos sœurs. Et voilà, je vais demander à Tony, à Jocelyne, à Jean, de pouvoir rencontrer ces personnes à la fin du culte, ou moi, hein, s'ils veulent venir me voir. Mais au moins, voilà, et de pouvoir prier avec eux. Parce que c'est important, ce matin, il se passe quelque chose d'incroyable. Des hommes, des femmes qui étaient sur le mauvais chemin sont venus sur le bon chemin. Ils ont rencontré le bon berger. Pas le pasteur, ce n'est qu'un berger, mais le bon berger. Ils ont changé de destination. Ça doit être un jour de fête, mes amis. Un jour de joie. Seigneur Jésus, nous voulons te louer parce qu'une fois encore, ta parole a eu de l'effet. Et nous voulons t'en louer. Je te prie pour ces personnes qui ont levé la main, Seigneur. Ces personnes qui ont décidé d'avoir des réponses à leurs questions, ou qui ont obtenu des réponses à leurs questions. Que vraiment, Seigneur, tu sois pour eux le chemin, la vérité, la vie, la résurrection. Que tu sois le bon berger. Que tu sois le cep. Et qu'il porte beaucoup de fruits. Merci Seigneur, parce que c'est une fois encore ton esprit qui parle. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Donc, les amis conseillers, vous avez repéré les personnes. Vous allez les voir pour pouvoir prier avec eux après. Merci.